Le 12 avril dernier, le parti du premier ministre de la Hongrie, Viktor Orbán, a subi une défaite historique. Après 16 ans d'extrême droite au pouvoir et autant d'années de recul démocratique, son adversaire conservateur et pro-européen, Peter Magyar, a remporté une victoire éclatante. François Larochelle, ancien diplomate du Canada, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Pour donc apporter ses lumières sur le sujet. Est-ce qu'on dit Magyar?
En fait, je pense qu'on dit Magyar.
Magyar, merci beaucoup.
Mais bon, mon hongrois
n'est pas particulièrement...
Non,
mais je pense que je vais vous faire confiance.
Et pas particulièrement fort. Alors oui, effectivement, le parti de Peter Magyar, TISA, a obtenu plus de 53 % des voix aux élections législatives du 12 avril, laissant le Fidesz du premier ministre sortant Orbán loin derrière avec à peine 38 %. TISA a aussi obtenu une large majorité de sièges au Parlement. Ce résultat est remarquable, d'autant plus que la participation électorale a été de 80 % du jamais vu depuis la chute du communisme.
Ouais.
Au cours de ses années au pouvoir, Orbán n'a cessé d'attaquer la démocratie et l'état de droit dans son pays. Il avait tour à tour réduit la liberté de la presse, muselé les oppositions et mis les institutions sous le contrôle de son parti ou de ses proches. La corruption y régnait. L'économie en Hongrie s'était transformé en un système de favoritisme. Mais en fin de compte, Orbán appauvrit la Hongrie, a réduit sa liberté de manœuvre. Son parti n'a pas rendu le pays plus respecté, plus puissant ou même plus chrétien comme il le souhaitait. Il n'a finalement réussi qu'à exclure la Hongrie de l'Europe, tant sur le plan idéologique qu'institutionnel.
Parlez-nous donc du nouveau premier ministre, Peter Magyar. Qui est-il?
Il est âgé de 45 ans. En fait, c'est un ancien membre du parti de Orbán, là, le Fidesz. Il avait quitté le parti en 2024 parce qu'il critiquait la corruption endémique dans l'entourage du premier ministre Orbán. Il a donc fondé son propre parti. Cet ancien haut cadre du gouvernement a donc réussi à rassurer les déçus du Fidesz en leur promettant d'être tout aussi conservateur que le pouvoir sortant sur les questions d'immigration notamment. Parallèlement, il a attiré les électeurs de gauche, fatigués des divisions des partis d'opposition traditionnels et qui étaient prêts à voter pour n'importe qui qui pourrait les débarrasser de l'extrême droite.
Alors, à quoi on peut s'attendre de ce nouveau gouvernement?
Bon, Magyar est considéré comme un conservateur pro-européen. On prévoit donc un rôle désormais positif de la Hongrie dans les institutions européennes, car Magyar veut récupérer les fonds gelés par la Commission européenne qui s'élève à 17 milliards d'euros, ce qui est quand même pas mal, en raison des dérives du pouvoir de Orbán. Avec Magyar, l'Union européenne peut donc s'attendre à ce que la Hongrie mette fin à sa politique de veto incessante sur l'Ukraine et d'autres sujets. D'ailleurs, l'une des premières décisions internationales du nouveau gouvernement hongrois a été de renoncer à son droit de veto contre le projet de prêt européen de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine, que Orbán bloquait, lui, depuis des mois. Cependant, M. Magyar a également indiqué qu'il continuerait de refuser de livrer des armes à Kiev et que la Hongrie continuerait de s'approvisionner en pétrole russe, notamment par l'entremise d'un pipeline qui traverse l'Ukraine. Sur le plan intérieur, le nouveau premier ministre disposera d'une marge de manœuvre considérable pour, on l'espère, rétablir l'état de droit qui était sa principale promesse électorale. Il vise aussi à obtenir le départ des proches de Orbán, notamment le président de la République, ainsi que les présidents de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle. Tous ces gens-là s'étaient montrés, au cours des dernières années, des complices dans des reculs démocratiques subie par le pays sous Orban.
La défaite de Viktor Orban représente une perte importante pour l'extrême droite européenne, si on vous suit bien, là, et une perte aussi pour Donald Trump et Poutine.
Oui. En fait, la Hongrie va probablement perdre son statut de phare de l'international réactionnaire que Orban avait soigneusement construit à travers des groupes de réflexion et l'accueil de figures de l'extrême droite mondiale. Marine Le Pen, du Ralliement national en France, a été particulièrement influencée par Orban, qui lui avait apporté son soutien financier et politique. Cette défaite de Orban survient après les revers du Néerlandais d'extrême droite Geert Wilders, qui a été devancé aux élections législatives là-bas en octobre 2025, et de l'Italien Matteo Salvini, qui peine dans les sondages et fait face à une concurrence à sa droite. Mais il faut quand même être prudent car chaque pays a ses propres particularités politiques. Il est donc impossible, je pense, à ce stade-ci, de généraliser ce résultat à toute l'Europe. En ce qui concerne Trump, ce n'est qu'au bout de 2 jours qu'il a finalement reconnu, et je cite, « c'est quelqu'un de bien ».
OK, ça c'est Trump qui dit ça.
Qui disait ça, mais il faisait référence à Magyar et pas à Orban, mais il a cependant ajouté « ouais, finalement, Victor, c'est quelqu'un de bien quand même
bon. ». Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil.
Voilà. La réaction plutôt modeste de Trump face à la déroute de Orban s'explique par son implication personnelle dans sa campagne électorale. Il avait même envoyé son vice-président Vance à 5 jours du scrutin et avait lui-même appelé les électeurs par téléphone lors d'un meeting électoral pour les encourager à voter pour Orban. À Moscou, où Orban, qui était un pro-russe, s'était rendu à 2 reprises depuis le début de la guerre en Ukraine pour rencontrer Poutine, le porte-parole du Kremlin a simplement déclaré « Nous n'avons jamais été amis avec Orban ».
Ah, alors ces élections semblent confirmer la distance avec les États-Unis de Donald Trump, du moins pour l'Europe.
Oui, après l'affaire du Groenland et la guerre en Iran, cette élection hongroise semble le troisième signe en quelques mois de la fracture de la relation des Européens avec Washington. Tout a commencé début janvier lorsque Trump a revendiqué le Groenland et a menacé ses alliés européens. Ce fut un choc majeur qui a poussé justement les Européens et d'autres, dont le Canada, à s'unir contre lui. Leur pression a finalement fait reculer Trump, du moins pour le moment. Le 28 février, Trump et les Israéliens ont lancé une offensive militaire contre l'Iran sans aucun mandat international. Les alliés américains n'ont été ni informés ni consultés malgré le risque évident qu'ils subiraient les conséquences du conflit. Lorsque la Maison-Blanche a demandé leur aide, ils ont répondu « ce n'est pas notre guerre » et ont tourné le dos à Trump. Le troisième épisode est celui de l'échec de la conquête idéologique. Orban était la figure de proue de ce qu'on appelle l'illibéralisme en Europe, qui inspirait Trump et ses semblables.
C'est quoi ça, l'illibéralisme?
C'est une opposition au libéralisme. Là. Le respect du droit, ça ne compte plus. La religion est plus importante. Il faut protéger les pays de l'immigration et tout ça. Là. C'est une approche d'extrême droite, en fait. Alors, disons que cette version de l'extrême droite n'est probablement pas morte, mais les supporters ailleurs en Europe ont sans doute compris que le soutien de Trump est maintenant contre-productif.
Donc, quelle est la leçon à tirer de tout ça?
Bien, c'est que rien n'est acquis à long terme, même pour des dirigeants autoritaires qui peuvent être évincés du pouvoir. Peut-être une leçon pour Trump, du moins pour les démocraties. En fait, c'est une bonne nouvelle et franchement, on en avait besoin en cette période de guerre incessante et d'instabilité internationale.
François La Rochelle, ancien diplomate du Canada, merci beaucoup.
Merci, au revoir.